Je me présente, je m'appelle Laurent Levasseur, je suis le président de Blue Linea. Nous avons souhaité organiser une conférence un peu particulière où on considère que ce salon est un salon B2B. Donc concrètement, on part du principe que nous n'avons pas de clients dans la salle, mais que des futurs partenaires potentiels, de par vos profils et de par les réflexions qu'on a pu avoir sur les différentes autres éditions. Avant de démarrer, j'ai souhaité que des partenaires de Blue Linea puissent s'exprimer et puissent présenter leur stratégie autour d'un sujet simple. Comment réussir à prendre un engagement contractuel et même plutôt une promesse aux familles pour pouvoir les accompagner au quotidien autour du grand âge et justement des seniors. Je vais laisser Ralph se présenter dans quelques secondes.
Bien, bonjour à tous. Alors tu me présentes comme si j'étais mondialement connu. Moi, je suis Ralph Ababou. Je suis plus connu par mes différents ouvrages, notamment « Service compris »,« Service gagnant ». Livre qui traitait de la notion de relation client, de service client. Peut-être des phrases que vous connaissez comme « L'homme qui ne sourit pas ne doit pas ouvrir boutique hein ». Proverbe qui n'est pas appliqué à Paris parce que presque tous les magasins seraient fermés. Enfin bref, j'ai vraiment beaucoup travaillé sur la notion de service depuis 25 ans, animé pas mal de conférences sur ce thème. Et il y a quelques années, je me suis effectivement intéressé aux seniors. Et pour quelle raison je me suis intéressé aux seniors? D'abord, vous savez, comme beaucoup de gens, je vieillis et je regarde ma messagerie. Vous savez, dans les messages, il y a les mails qu'on attend, puis il y a les mails qui sont ce qu'on appelle les spams, les pourriels, les mails qu'on n'attend pas spécialement. Et pendant des années, mes mails, bah, ça me parlait plutôt de, vous savez, de « élargis ton pénis », la pilule miracle, etc. Enfin, des trucs très très sympas. Puis petit à petit, j'ai vu la tonalité changer. J'ai reçu des mails qui me parlaient de Montescalier. Petit à petit, j'ai vu les mails se transformer en aide auditive. Alors, j'ai également reçu le mail du club Rencontre Senior, c'était super sympa. J'ai eu le mail qui parlait de ma prostate. Et puis, bien sûr, le jour de mes 50 ans, quand j'ai reçu l'offre de contrat obsèque, j'ai dit « ça y est, mon vieux, tu es passé de l'autre côté de la barrière ». Alors, plus sérieusement, effectivement, je me suis intéressé. Je me dis « mais tiens, je m'intéresse au client depuis des années. Qu'est-ce qui se passe lorsque le client vieillit ? Est-ce qu'il reste exactement comme le client d'avant ou est-ce qu'il change de comportement, d'attitude ? Et effectivement, Laurent l'a dit, on est vraiment dans une réunion où on va vraiment parler du business, du monde de l'entreprise. Vous savez, les seniors, il y a plein de gens qui écrivent sur les seniors avec comment les aider, les aidants, etc. Et c'est formidable de s'en occuper, mais j'ai essayé de réfléchir à me dire, mais finalement, est-ce que ce n'est pas un marché considérable, et comment adresser ce marché en dehors des considérations, bien sûr, que l'on peut avoir sur le plan social. Voilà, donc ça aboutit à cette conclusion qui est mon livre qui s'appelle « S comme senior » avec un énorme or, parce que je pense qu'il y a vraiment de l'or dans senior. Vous savez, lorsqu'on parle de silver economy, c'est de l'argent, et moi je pense que c'est encore mieux que de l'argent, c'est véritablement de l'or. Quand vous avez monsieur Jean-Paul Agon, patron de L'Oréal, qui dit « c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous avons un aussi grand nombre de consommateurs de plus de 65 ans », eh bien il a compris effectivement le message de la société dans laquelle nous vivons. Monsieur Jean-Hervé Lorenzi qui dit « le vieillissement est le phénomène qui va structurer le monde dans les années à venir ». Vous savez, on est tous bien sûr super heureux que nos parents, nos grands-parents soient encore vivants et c'est formidable et c'est une excellente nouvelle à titre personnel, mais c'est une catastrophe économique qui coûte des milliards d'euros et des milliards de dollars à toutes les sociétés. Tous ces gens qui vieillissent et qui sont encore vivants, c'est une catastrophe économique. Qui a même fait dire à un premier ministre japonais, mais quand est-ce qu'ils vont mourir tous ces vieux japonais qui nous coûtent une fortune? Donc je crois qu'il faut effectivement se poser cette question-là. Alors tous ceux qui écrivent des livres sur les seniors vont vous dire la même chose. La première question qu'on me pose, c'est celle-là. À partir de quel âge est-on... Ah, il ne veut pas passer. Voilà. La première question que l'on me pose, c'est à partir de quel âge est-on senior? C'est la vraie question. Hein, avec sous-entendu, alors est-ce que c'est grave, docteur, hein, comme si c'était effectivement une maladie d'être un senior. Alors, quand on demande aux Français, il y a une enquête qui a été menée. Quel âge, à partir de quel âge on est senior? Voilà la réponse que donne cette enquête. Voilà, 66 ans. C'est intéressant, c'est cette enquête. Voilà les statistiques, voilà. On demande aux gens, vous vous considérez appartenir à la catégorie des seniors? Bah regardez, c'est la moyenne, c'est 66 ans. Intéressant quand même, à plus de 80 ans, il y a encore 8% d'irréductibles qui disent « moi, je ne suis pas encore un senior ». Donc vous voyez qu'il y a de l'espoir. Et entre 71 et 80, il y en a 26%, 1 sur 4, qui dit « senior, c'est pas moi ». Hein, tout le monde connaît la blague de cette personne âgée qui ne va pas dans des clubs de rencontres seniors. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des vieux là-dedans, bah, bien sûr, et évidemment. Alors moi, je vais vous dire ma vision des choses. Senior, c'est quand? à partir de quand ça commence. Eh bien, je vais peut-être en décevoir certains dans la salle. Voilà, 44 ans. Pourquoi ? À partir de ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui m'aiment plus, parce que je pense que c'est la première fois, vous savez, qu'on est amené à prendre des lunettes pour la presbytie. C'est la première fois qu'on vit dans son corps, véritablement, le vieillissement naturel. Porter des lunettes, ce n'est pas une maladie, je le répète, mais c'est la première fois. Et ce qui est intéressant, c'est que si on prend une moyenne de vie de 90 ans, bien, on est senior la moitié de sa vie, et on l'ignore, et on ne se comporte pas comme cela. Alors bien sûr, la bonne nouvelle, c'est les sociologues qui ont travaillé là-dessus, ce qu'on appelle l'âge subjectif. Il y a l'âge que l'on a dans sa carte d'identité, mais il y a surtout l'âge que l'on a dans sa tête. C'est en moyenne 15 ans de moins. Donc cette personne qui a effectivement 60 ans, pour elle, elle a encore 45 ans, elle est en pleine possession de ses moyens. Ce phénomène, je vais très rapidement, parce que je crois que c'est des choses que tout le monde connaît, mais c'est intéressant de les remettre dans le contexte. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle la séniorescence, un mélange entre être senior et l'adolescence. C'est Florence Foresti qui dit avoir 50 ans, c'est être ado avec une carte bleue. C'est un peu ça. Et tous ceux qui connaissent notamment des hommes entre cette période-là, eh bien, c'est un peu tout et n'importe quoi. Il se passe beaucoup de choses. Je rappelle que le taux de divorce entre 50 et 60 ans est le même qu'autour de 30 ans. Donc c'est le moment où le couple explose ou se recompose. Il y a passe plein de choses vraiment dans tous les sens. Autre phénomène, bien sûr, le phénomène le plus important, et je crois que c'est là-dessus que tout le monde parle, c'est le phénomène des baby-boomers, je rappelle, génération née dans l'euphorie de l'après-guerre. On passe des nombres de 450 000 enfants par année à près de 700 à 800 000. Eh bien, ces baby-boomers, ils arrivent à l'âge de la retraite aujourd'hui. Je rappelle qu'ils sont nés entre 1945 et 1964. Monsieur Daniel Cohn-Bendit vient d'avoir 70 ans. Voilà, on l'imagine toujours à mai 68 en train de défier un policier, mais il a 70 ans. Et cette génération-là, eh bien, elle est absolument bénie des dieux. Elle a vécu les 30 glorieuses, je vous en parle quand même un instant. Ils ont connu, eh bien, mai 68, le travail en CDI sans le chômage. Ils ont connu la consommation sans absolument aucune contrainte, la sexualité sans le sida, avec la pilule et grâce à l'avortement, le boom de l'immobilier, n'importe quel abruti de senior de baby-boomer qui achetait un truc il y a 30 ou 40 ans, bien aujourd'hui possède une véritable fortune. Et en fait, c'est eux qui ont mis la plaine dans cet état. C'est eux qui ont laissé une dette monstrueuse à leurs enfants. Donc on en parle aussi un peu de cette génération un peu égoïste, un peu après moi le déluge, et assez intéressante à analyser. Pour elle, le vieillissement, c'est pas une fatalité, c'est un style de vie. Et on se dit qu'aujourd'hui, cette génération de ce qu'on appelle les happy boomers, parce qu'ils ont une chance considérable, eh bien, ils sont en train d'inventer une manière de vieillir différemment. Alors, en un mot, bien sûr, senior, c'est qui ? Quand on parle aux baby boomers, si eux sont seniors, la première réponse, c'est pas moi, c'est mes parents. Donc, on tarde vraiment à se sentir véritablement senior, et c'est également intéressant, et ça va nous aider dans notre réflexion sur le sujet d'aujourd'hui. Au sujet d'Internet, eh bien, on les appelle les silver surfers, bien sûr. L'image du papy en charentaise devant son Minitel, elle est bel et bien terminée, c'est révolu. Toute cette génération de baby-boomers, eh bien, ils ont découvert les technologies de l'information, Internet. Alors, ils ont tous plus ou moins un smartphone, ils lisent les SMS, ils vont sur Internet, ils vont sur Facebook. Alors, je ne garantis pas qu'ils soient tous à la pointe de Twitter ni d'Instagram, mais en tous les cas, ce n'est plus un sujet aujourd'hui. Donc, ça peut nous intéresser par rapport, effectivement, à comment les contacter. Le phénomène des sexygénaires, vous savez, j'ai 60 ans, mais je suis encore super désirable et super mignonne. Merci la chirurgie esthétique et merci tous les produits que l'on m'a vendus. Donc aujourd'hui, on repousse de plus en plus l'âge de la séduction. Et bien sûr, cette génération, n'oubliez pas, a inventé tous les produits pour l'aider. Eh bien, le Viagra, 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc même quand il y a un problème, eh bien, on trouve toujours la solution. Enfin, dernier point, j'aurais presque terminé, sur senior, c'est combien en France ? Voilà, quelques chiffres, il y a des millions de chiffres, mais quelques chiffres qui vous gardez en tête. Eh bien, il y a aujourd'hui 15 millions de 60 ans et plus en France. Ils seront 20 millions en 2030. Donc voilà ce fameux tsunami gris, la marée humaine de ces vieillards qui vont bientôt nous envahir. Je plaisante, bien entendu. Il y aura 12 millions de 75 ans et plus en 2060. Donc la France vieillit, qu'on le veuille ou non, les pays développés vieillissent à un rythme effréné. Et la France est peut-être un peu moins encore concernée par ce vieillissement que l'Allemagne ou l'Italie. Il représente aujourd'hui 54% des ménages. N'oubliez pas, je vais en parler, que les seniors sont encore des gens qui sont prêts à payer pour un conseil personnalisé, pour avoir affaire à un être humain, pour pas acheter des produits français, etc. Donc 54% des ménages. Et ils ne sont, si j'ose dire, que 685 000 en EHPAD. Donc globalement, ils sont plutôt chez eux et plutôt en bonne santé. Vous voyez le nombre de gens en EHPAD par rapport à cela. Et c'est intéressant. Alors moi, une des parties de mon bouquin S comme senior, un super bouquin dont je vous recommande la lecture, bien sûr, commence par la phrase qui dit « salaud de vieux ». Parce que les vieux d'aujourd'hui, ils ont une chance exceptionnelle. ils sont plutôt des moyens confortables. Je rappelle que cette génération du baby boom, eh bien, c'est la génération où madame a travaillé. Donc on arrive dans une génération où il va y avoir la double retraite qui tombe, alors que toutes les seniors d'aujourd'hui, eh bien, ils n'avaient qu'une seule retraite parce que monsieur travaillait. Donc la double retraite, même si entre-temps le couple, bien sûr, s'est décomposé ou s'est recomposé. Donc ça, l'odieux, regardez, eh bien, une enquête montre qu'ils sont 23% qui sont très satisfaits et 85% sont globalement satisfaits de la vie qu'ils mènent. Donc globalement, je peux dire que c'est une génération qui est vraiment en pleine possession de ses moyens, qui est chez elle, qui est heureuse et qui a les moyens qu'il faut par rapport à sa vie. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut pour justement attaquer cette clientèle des seniors, pour leur vendre? Eh bien, vous l'avez compris, plus que jamais, cette génération, elle va consommer des services. Elle a du temps, elle a de l'argent, donc elle est prête à consommer des services. Encore faut-il que les services soient de bonne qualité. C'est ce que j'ai appelé les 7 S. Pour avoir de la relation client avec les seniors. Premier S, c'est le S de sérénité. Ils ont du temps et ils prennent leur temps. Donc il faut savoir que si vous voulez demain attaquer le marché des seniors, il faut prendre votre temps. Dans les centres d'appel, quand on a un senior qui appelle, c'est une plaie, une calamité, parce qu'il va prendre son temps, il va poser des questions, il va réfléchir. Donc n'essayez pas d'accélérer les choses, ça ne servira absolument à rien. Le deuxième S, c'est le S de sympathie. Il faut faire preuve d'écoute et d'empathie et développer une capacité sincère à se mettre à leur place. J'aime bien cette phrase qui dit « En affaires comme en amour, l'important c'est d'aimer ». Je crois qu'on ne peut pas vraiment réussir dans ce domaine si on n'aime pas les seniors, si on n'aime pas les personnes âgées. Dans certains centres d'appel, eh bien, on se dit finalement il y a des jeunes filles ou des jeunes hommes qui aiment bien parler aux grands-parents, eh bien, on va les mettre en contact avec des seniors, donc la sympathie. Troisième S, c'est le S de sincérité. Ils ont besoin d'avoir confiance. Et une confiance, vous savez, ça se construit sur le long terme. Et si jamais vous les décevez, alors là, ça peut faire extrêmement mal. Donc il s'agit de les rassurer, d'offrir des garanties, des preuves de confiance et de fiabilité. Le S de simplicité, plus que jamais, ils ont besoin de quelque chose qui soit simple. Donc dans vos offres, il faut des choses les plus simples possibles. Ils veulent avoir un interlocuteur unique, éviter les SVI, taper 3, taper 5, etc. Ça, c'est véritablement une calamité. Le cinquième S, c'est le S de satisfaction. Quand on vieillit, on consomme différemment. Ils ont plus d'envie que de besoin. Et donc, il faut raisonner cette notion de dimension plaisir. Elle est fondamentale. Je me rappelle d'une vidéo chez Vita Comfort où une personne âgée regarde ce meuble salle de bain et qui dit « c'est agréable parce que c'est beau ». Voilà, il faut faire des produits beaux, des produits qui sont séduisants. Il faut donner envie. Dans mon livre, je dis, il faut transformer le pouvoir d'achat en vouloir d'achat. Ils ont de l'argent, mais est-ce qu'on a envie d'acheter des produits qui respirent le monde médical ou qui donnent absolument pas envie? C'est pas certain. Le sixième S, c'est le S de la seniorité. Et oui, comme par hasard, ces personnes âgées aiment bien être servies ou accueillies par des personnes qui leur ressemblent ou qui les comprennent. Le paradoxe de la société française, c'est que dans nos entreprises, on se débarrasse des vieux, alors que nos clients vont être de plus en plus âgés. Donc là aussi, il y a quelque chose d'assez intéressant à analyser par rapport à ce sujet. Un agent immobilier me disait, mon meilleur vendeur, il a 72 ans. Parce que pour vendre des biens immobiliers d'une certaine valeur, eh bien, effectivement, avoir un petit peu de maturité et d'âge, c'est pas mal. Et le dernier S, bien sûr, vous l'avez compris, c'est le S de service, c'est le S des services. Ils sont extrêmement sensibles à cette notion de service. Je pense même que cette clientèle des seniors est la dernière qui va encore être prête à payer plus cher pour un vrai service. Je pense qu'on a une fenêtre de tir de 15 à 20 ans après cette nouvelle génération qui va être, elle, arrivée. Eh bien, ça va être la génération Blablacar, Airbnb, Uber et compagnie, et ils ne seront plus prêts à payer pour des services clients. Alors juste, puisque c'est un extrait de mon intervention, mais juste un exemple, regardez comment une marque comme Nestlé, un multinational dans le chocolat, a redesigné sa boîte qui fabrique les chocolats, la Black Magic Box. Vous allez voir à quel point c'est vraiment du détail. Alors c'est en anglais bien sûr, mais je vais faire la traduction simultanée. Ils ont réduit de 10 mm la hauteur du couvercle pour qu'il soit plus facile à enlever. On a disposé les chocolats de façon à ce qu'il y ait un ordre logique qui correspond à l'ordre dans lequel il y a le coussin qui présente les recettes de chocolat. Troisièmement, la boîte a été entièrement enveloppée d'un film de façon à ce que les peuvent enlever facilement les stickers, les étiquettes dessus. Vous savez, il y a tous les problèmes de pelabilité. Vous avez des pots de yaourt avec un truc super compliqué à enlever. Et quand on vieillit, eh bien, on a plus de mal à sentir ces choses-là. L'impression du coussin sur lequel vous avez les recettes, eh bien, on a augmenté légèrement le corps pour qu'il soit plus facile à lire. Combien de sites internet ne sont pas faits pour les seniors? Combien de sites internet, vous n'avez même pas la capacité à augmenter le corps, donc vous avez des trucs écrits en minuscules, et forcément, vous perdez les clients dans ce cas-là. Et à l'intérieur, eh bien, on a augmenté la cavité de 5 mm pour qu'il soit plus facile. Vous savez, quand vous avez le chocolat, vous devez le prendre, qu'il soit plus facile de récupérer le chocolat. Le marketing des seniors, c'est ça. Le marketing des seniors sera demain subtil. Hein, ce n'est pas les gros sabots avec plus de 50 ans, moins 50%. C'est quelque chose de subtil où, sans jamais stigmatiser le senior, on va lui faciliter la vie de façon à ce qu'il ait le sentiment que tout est beaucoup plus simple. Donc, si pour répondre à la question qu'a posée Laurent dans le thème, faut-il oser innover? Oui, plus que jamais. N'oubliez pas que les baby-boomers, ces fameux seniors d'aujourd'hui, sont des consommateurs professionnels. Ils ont vécu avec la société de consommation. Aujourd'hui, ils ont acheté au moins 5 ou 6 voitures, 2000 contrats d'assurance, acheté 3 maisons, etc. On ne la leur fait pas. Ils connaissent tous les pièges du marketing, donc plus que jamais, soyez subtils dans vos approches par rapport aux seniors. Merci de votre attention. Merci, et je passe la parole à... Tu vois.
Pardon.
L'idée maintenant, c'est de donner la parole. Alors, je ne sais pas si tu veux rester assis, si tu veux...
Ouais, je suis bien là.
On va laisser une grande place à des questions-réponses, parce que souvent, on est frustré pour ça. Donc, je vous présente Olivier Vallée, qui est le directeur des marchés auprès du groupe Legrand pour l'assistance et l'autonomie. Et globalement, aujourd'hui, on a des réalisations pour essayer d'oser simplement innover pour la famille, ce qu'on appelle souvent les aidants.
Donc, bonjour, donc en fait j'ai une petite animation après qui présentera le sujet bien mieux que je ne pourrais le faire. Simplement, la réflexion est partie, donc le groupe Legrand est impliqué depuis une dizaine d'années dans le sujet des seniors. On y est rentré d'abord par la domotique et lié au fait que notre siège social se trouve à Limoges, qui est une des régions les plus âgées de France, donc on a un terrain autour de chez nous assez favorable pour faire des expérimentations, pour tester des solutions. Et donc on s'est rapproché il y a une dizaine d'années de l'équipe gériatrique du CHU de Limoges qui nous a emmenés sur le terrain chez des usagers pour tester des solutions. Et en 2011, on a racheté une entreprise qui s'appelle Intervox qui fait des équipements de téléassistance, donc qui permettent de connecter un logement avec un plateau d'appel, un plateau de service. Par rapport à cette offre, qui au départ n'était qu'une offre qui permet de faire de l'appel d'urgence, on s'est dit que c'était un peu dommage de ne pas utiliser ce transmetteur comme un objet connecté qui permet de connecter la maison avec l'extérieur et de profiter aujourd'hui des applications smartphone pour mettre en relation le domicile, la personne dans son domicile et sa sphère d'aidants familiaux. On a souvent la problématique, on dit souvent que les seniors âgés n'ont pas envie d'aller en EHPAD, mais pour les enfants, c'est souvent la solution la plus rassurante, parce qu'on sait qu'il y a du monde autour, on sait qu'ils ne sont pas seuls, et garder ses parents à la maison tout seul, quand on habite loin, et aujourd'hui, on sait que les enfants sont partis travailler aux quatre coins de la France ou du monde, c'est assez stigmatisant pour les enfants, assez compliqué au quotidien, il y a de l'anxiété, et donc on s'est dit, finalement, on va utiliser ce transmetteur de téléassistance. On va profiter que c'est un objet connecté pour le connecter sur une plateforme web. Et ça permettra aux enfants de pouvoir voir ce qui se passe dans le logement. Alors de manière pas du tout intrusive, c'est des choses très simples qu'on va voir. Savoir si sa grand-mère, par exemple, s'est bien levée le matin, tout simplement. Si sa porte d'entrée est bien fermée. S'il ne fait pas trop chaud ou pas trop froid dans le logement. Donc c'est extrêmement simple. Ça vient compléter un dispositif de téléassistance parce qu'il faut toujours... cette possibilité d'appeler au secours si on a un problème, mais on utilise la même infrastructure pour sortir ces informations et les mettre à disposition des enfants. Donc on va vous montrer l'animation qui résume un peu la solution.
Voici Mamie Jeannette. Comme beaucoup de gens de sa génération, elle est un peu isolée. Ses enfants, Michel et Françoise, sont loin et s'inquiètent de sa bonne santé au quotidien. Même si Mamie Jeannette a perdu de son autonomie, il est hors de question pour elle de quitter son logement. Elle y a ses repères et s'y sent bien. Pour les enfants, la situation est complexe. Même s'ils appellent très régulièrement leur mère, savoir si elle s'est bien levée le matin, si elle n'a pas chuté, ou si la porte d'entrée est bien fermée, sont des inquiétudes quotidiennes. Transformer les logements de Jeannette, René, Henri, Huguette et tous les autres en logements connectés est un jeu d'enfant avec la solution Intervox. Le pack Zen contient différents produits de détection, d'alerte et de bienveillance qui, connectés à l'application, vous informent de la vie au sein du logement. Ce dispositif vient en complément d'un service de téléassistance. En cas de chute, Jeannette n'a qu'à appuyer sur le bouton de son pendentif pour contacter le téléassisteur. Quand Michel prend son petit déjeuner, il peut voir en temps réel via son smartphone si sa mère s'est bien levée. Françoise, en attendant qu'Hugo sorte de l'école, peut consulter la température du logement de Jeannette ou encore vérifier que sa porte d'entrée est bien fermée. Gardez un lien bienveillant avec vos proches grâce aux produits et à l'application Intervox. En complément d'un service de téléassistance, gagnez en sérénité et profitez de vos parents pour les bons moments à partager avec eux. Intervox, les solutions simples de bienveillance à domicile.
Parfait. Merci, Olivier. Maintenant, on va donner la parole à Guillaume Richard, qui est le président d'O2. A priori, tous les micros marchent. Hein. Concrètement, aujourd'hui, il se passe des choses et tu fais partie aujourd'hui des rares opérateurs à vraiment avoir touché en grand nombre des familles, des personnes âgées. Je crois que tu as passé la barre des 75 000, 80 000.
Avec le rachat de l'appel service, on est même passé à 100 000 clients par an chez qui on intervient pour effectuer des services à la personne. Voilà. Donc effectivement, j'ai créé une entreprise qui s'appelait O2 il y a une dizaine d'années. Et depuis, le groupe s'est transformé. Et aujourd'hui, on annonce le changement de nom du groupe qui s'appelle désormais le groupe WeCare, bien évidemment en référence avec le jeu de mots sur le « oui » qui est écrit O-U-I pour maintenir cet aspect français, mais en même temps qui se prononce « oui » comme le « oui » nous, anglais, le « we care », parce que notre métier, c'est de porter attention. Et porter attention à qui ? Porter attention à nos salariés, à nos clients. Dans cet ordre-là, parce que si vous avez des salariés qui sont épanouis, vous avez des clients qui sont heureux et satisfaits. Et la satisfaction des salariés est la première chose que vous devez chercher à accomplir si vous voulez avoir derrière des clients qui sont satisfaits. Donc on fait énormément de services pour toute la famille. On a démarré sur des services qui étaient essentiellement pour les actifs, le ménage repassage, l'accompagnement des enfants. Et puis, depuis quelques années, on a développé des services d'accompagnement de la personne âgée ou handicapée. Et on est parti du principe que c'est pas parce qu'on ne peut plus tout faire qu'on ne peut plus rien faire. Et comment est-ce que la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner le plus longtemps possible la personne dans son autonomie, la rendre actrice de sa vie. Le service qui existe majoritairement et qui est majoritairement rempli par l'essentiel des acteurs du secteur, c'est le maintien à domicile. Le maintien à domicile, on répond aux actes essentiels de la vie quotidienne, on accompagne la personne dans son lever, dans la réalisation de sa toilette, dans le fait de se nourrir, de s'habiller, dans les fonctions d'évacuation, etc., etc. Mais très souvent, ce qu'on nous demande, et ce que demandent en particulier les pouvoirs publics, c'est juste de faire ces actes essentiels de la vie quotidienne, ce qui permet de vivre, ou plutôt en réalité de survivre. C'est un peu comme la cantine de l'hôpital, c'est nutritionnellement, c'est nickel. C'est une traçabilité parfaite, c'est hygiénique, c'est parfait, ça permet de survivre. Pour autant, il n'y a pas franchement le goût de la vie. Il n'y a pas franchement tout ce qui fait ces petites choses qui sont un peu plus. Et c'est pour ça qu'on a créé toute une gamme de services autour du faire ensemble. Le faire ensemble, parce que l'idée, c'est un peu comme Ratatouille. Je ne sais pas si vous connaissez ce dessin animé de Walt Disney. Ratatouille, c'est le petit rat et c'est lui le cuisinier. Mais il n'a pas la force physique de faire les choses. Il n'a pas la force physique de faire les choses, donc il s'appuie sur qui ? Il s'appuie sur Luigi, qui lui va faire les choses et a la force physique. Et moi, j'ai vécu avec ma grand-mère maternelle. Ma grand-mère maternelle, elle est dans les années 1930. Elle était médecin, elle était brillante. Et puis, elle s'est mariée avec mon grand-père, qui, lui, est devenu professeur de médecine. Et donc, elle a tout abandonné sa carrière. Et pourtant, elle était incroyablement plus intelligente que lui. Elle était vraiment, vraiment, vraiment brillante pour se consacrer à sa famille, à ses enfants. Comme le faisait, comme c'était normal à cette époque-là. Et donc, elle s'est transformée en véritable Brie Van Der Kamp, pour ceux qui connaissent Desperate Housewives. C'est-à-dire qu'elle était incroyable dans la capacité qu'elle avait à gérer la maison, à gérer ses enfants. Elle a eu 6 enfants. À recevoir pour son mari, parce que bien évidemment, le professeur devait recevoir les collègues, le Lions Club, le Rotary, le machin de je sais pas quoi. Et puis quand elle a commencé à décliner physiquement, eh ben on a fait des bêtises. Nous, ses enfants, ses petits-enfants, par amour, on a fait des bêtises. La première énorme bêtise qu'on a faite, c'est qu'on lui a dit « C'est bon, repose-toi, t'en as suffisamment fait pour nous, on peut dorénavant le faire pour toi. » Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Parce que sa raison de vivre, c'était de tenir un foyer parfaitement, de faire de la cuisine très bien, de maîtriser. Et quand on lui disait non, c'est bon, va pas faire des courses, repose-toi, regarde la télé, repose-toi, lis un livre, repose-toi, ne fais pas la cuisine, repose-toi, ne mets pas la table, repose-toi, on va le faire. Et c'est pas ce qu'on aurait dû faire, on aurait dû le faire ensemble avec elle. Alors certes, quand on aurait fait les courses, ça nous aurait pris une demi-heure de plus, parce qu'elle allait lentement. Certes, quand on fait la cuisine, ça nous aurait pris plus de temps, parce que on aurait porté les choses lourdes, et puis, un peu comme Ratatouille, elle aurait goûté, elle nous aurait dit, bah tiens, on fait ça et ça, et ça aurait favorisé. Mais non, en fait, et encore une fois, par amour, comme vous l'avez très certainement tous entendu autour de vous, on a dit, repose-toi, mamie, reste de à côté, on va le faire pour toi, on va le faire à ta place. T'en as suffisamment fait pour nous, aujourd'hui, on peut s'en occuper. Et il aurait fallu faire ensemble. Il aurait fallu faire avec elle. De la même façon que quasiment tous, par amour, on est tenté ou on fait. On se dit, on est tenté par l'inversion des rôles. L'inversion des rôles, c'est le nom un peu savant pour dire que je suis l'enfant de mon parent et quand mon parent vieillit beaucoup, eh bien, il peut potentiellement devenir lui-même l'enfant de son enfant devenant parce qu'on doit l'accompagner. Et on se dit, maman m'a torché quand j'étais petit, je peux bien la torcher maintenant qu'elle est vieille. Et ça, faut surtout pas faire. Faut surtout pas faire parce que c'est destructeur psychologiquement. Pour à la fois la personne aidée et pour l'aidant. Il faut se faire accompagner. Et tout ça, toute cette compréhension, c'est ce qui a donné tous les services qu'on a mis en place autour de cette notion de faire ensemble, de continuer, de permettre à la personne âgée de continuer à écrire son projet de vie le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Et de rester au domicile, qui est le lieu où souhaite rester 90%, où souhaite vieillir 90% des personnes âgées, rester le plus longtemps possible. Voilà les points d'innovation, et c'est une innovation de service, parce que ce qui était demandé par la façon dont était structuré le marché, c'était exclusivement sur ce qu'on appelle le maintien à domicile, ces services réponse aux actes essentiels de la vie quotidienne qui est véritablement ce qui est demandé aujourd'hui par les collectivités. Et nous, on a été dans le plus et apporté cette innovation de service dans le faire ensemble.
Donc désormais, tu es beaucoup plus sur le soutien à domicile que sur le maintien à domicile.
Très bien. Sur la qualité de vie à domicile.
Alors, dans les personnes qu'on a souhaité faire intervenir aujourd'hui, il y a aussi Jean-Philippe. Jean-Philippe, on a mis deux mots qui, généralement, ne sont pas ensemble. D'habitude, on parle d'habitat et mobilité, et quand on s'est rencontrés, nous, on a tout de suite vu habitat et quotidien avec toi. Je vais te laisser te présenter, et j'aimerais que tu nous parles de toutes ces petites astuces, en fin de compte, qui changent ce quotidien, et qui vont dans le sens, d'ailleurs, de ce que nous a indiqué Guillaume à l'instant, à savoir apporter des petits plus qui changent tout pour très longtemps, en fin de compte.
Merci Laurent, bonjour à tous. Alors, rapidement, pour présenter Vita Confort, nous sommes filiale du groupe La Paire, elle-même filiale du groupe Saint-Gobain. La raison d'être de Vita Confort, c'est que Saint-Gobain, depuis maintenant 20 ans, a recentré complètement son activité sur l'habitat de demain. Saint-Gobain, on nous connaît à travers le vitrage, ça a commencé il y a 350 ans par Colbert et Louis XIV à Versailles, mais ça s'accélère depuis 20 ans. L'habitat de demain, alors on est au seuil de la COP22, donc il sera évidemment passif, il consommera plus d'énergie fossile, il en produira. Mais il devra être adapté aussi au changement de génération, voire au co-générationnel. Donc un habitat adaptable. Donc, il y a quelques années, j'étais directeur marketing moi, de la paire et j'ai commencé à m'intéresser à l'impact du vieillissement de la population sur la distribution en termes de produits et de services. On a la chance d'être à la fois industriel, donc de pouvoir créer des produits, et distributeur, donc de pouvoir les amener à l'usager. Et on a essayé de développer, je dirais, une offre senior à travers un programme indépendance des seniors et accessibilité dans le cadre des magasins La Paire Classique, donc des grandes et moyennes surfaces de bricolage. Et pour dire ce que disait Ralph, on s'aperçoit que dans un univers où il y a beaucoup de monde et ainsi de suite, ben on ne peut pas remplir les 7 S et qu'il fallait imaginer autre chose. Donc d'où ce magasin Vita Confort où on met en œuvre des produits d'aménagement du quotidien, donc ce qu'on appelle des aides techniques dans l'ancien jargon. On préfère, on le partage avec la CNAV et Prévention Retraite Île-de-France, parler d'aides de confort au quotidien. Et puis aussi des solutions de réaménagement plus lourd du domicile et également du service. Alors j'intervenais devant les caisses de retraite complémentaires, ils faisaient une conférence sur le sujet hier pour démystifier le sujet de l'adaptation de l'habitat ou de l'adaptation de son quotidien. Alors j'ai pris un produit de mon collègue à ma droite, mais voilà, l'adaptation du domicile, ça peut commencer simplement par une veilleuse à 9 €, dont on se sert alors effectivement pour les enfants à l'âge de 2-3 ans, mais il y a Mickey dessus. Sauf que là, c'est très utile pour permettre à une personne, pour se repérer dans la nuit, pour faire un début de petite adaptation. Alors ça va effectivement de cette petite prise, ça va d'une canne jusqu'à réaménager complètement une douche, une cuisine, des mains courantes dans les couloirs. Mais ça ne va pas sans le service. Et une des principales innovations de Vita Confort, c'est finalement quelque part d'être un intégrateur. C'est vrai que ce que disait Raph, beaucoup de gens en fait, moi ce que je vois au quotidien, alors on a fait déjà pas mal 150 rénovations depuis un an, c'est un magasin laboratoire qui nous permet de décoder effectivement les attentes des usagers, de leur écosystème. J'aime à définir, je dirais, le senior comme appartenant à un écosystème, effectivement avec des proches aidants, avec donc familiaux ou professionnels. Quand Ralph disait, quand on leur demande, voilà, vous êtes senior à partir de... Enfin, quel est votre âge de seniorité, 66 ans, ben à 66 ans, on a très souvent encore ses parents. Donc effectivement, on ne s'adresse pas à un consommateur, mais à un écosystème de personnes qu'il va falloir amener à comprendre en quoi l'après-midi de la vie, comme dit mon ami Serge Guérin, ben le mot m'échappe, mais c'est un vrai projet de vie en fait. Et ça commence par des petites aides. Jusqu'à effectivement potentiellement un maintien à domicile avec des solutions techniques et des aides de confort et des aides humaines, voire envisager un placement en institution. Donc c'est tout ce qu'on essaie de décoder au quotidien qui nous fait, alors pour l'aménagement du domicile en particulier, j'ai de plus en plus la conviction, enfin je compare ça à un 110 mètres. Il faut accepter son âge, il faut accepter les premiers signes de faiblesse liés à l'âge, il faut accepter d'accueillir des étrangers, il faut accepter d'être conseillé. Nous ça nous arrive d'intervenir dans des réunions de famille pour que toute la famille, je dirais, soit d'accord sur les solutions proposées. Et ça va, j'en parlais juste avant avec le président d'O2, à faire des services vraiment tout compris, encore pour pas rester grave, c'est-à-dire qu'on va envoyer un ergothérapeute et on va même proposer une solution de ménage à la fin, puisque tout le côté anxiogène des travaux qui s'installent à la maison, il faut faire tomber toutes ces barrières pour que la personne accepte qu'on rénove son domicile. Et le deuxième message qu'on partage avec les pouvoirs publics, donc c'est pour ça que j'étais auprès des caisses de retraite complémentaires, la CNAV, Solia, le Pacte, Cramif, Escavi, on doit tous se battre pour cette notion de prévention. Un constat qu'on fait depuis 12 mois, nous, et toutes les personnes qui sont au contact, je dirais, des usagers, sont importantes. La moyenne d'âge de nos clients aujourd'hui, chez Vita Confort, est entre 80 et 85 ans. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on vient nous voir que quand il est trop tard. Pour moi. Et que donc, on peut commencer à envisager son projet de vie bien avant, pour éviter les premiers petits bobos qui vont en entraîner d'autres et qui vont faire qu'on va pouvoir potentiellement accélérer certaines solutions qu'on ne veut pas. Effectivement, il y a 26 millions de logements anciens en France, 80% qui ne sont pas adaptés à une population. Donc on a tous un énorme travail, je dirais, d'information, d'accompagnement, de service, ce qu'on essaie de démontrer avec tous les partenaires qui sont là, puisque effectivement, quand je dis intégrateur, nous on propose évidemment les produits de Legrand qui ont été parmi les premiers de ce matériel-là à être suffisamment simple pour être perceptible en termes de bénéfices d'usage par les usagers. Laurent, évidemment, pour des solutions plus techniques et plus, avec plus d'appétence pour le début de téléassistance dans un mode de liberté. Et puis, on est présent sur le stand de l'AFNOR qui lance son label, avec une de nos créations qui commence à être connue, qui est le meuble Concept Care, qui symbolise pour nous ce qu'on doit développer en termes d'industriel, des produits au meilleur rapport qualité-prix-usage-design. Je dis bien la qualité, puisque c'est des consommateurs experts, ils ne vont pas se laisser berner. Le prix, parce qu'il faut que ça soit accessible au plus grand nombre. L'usage, parce qu'on n'est pas là pour vendre des gadgets. Il faut vraiment qu'il y ait un usage perceptible qui facilite la vie au quotidien. Et puis le design, parce qu'effectivement, bah, rester chez soi, c'est simplement se faire plaisir. Voilà en quelques mots, si je peux résumer.
Merci Jean-Philippe. Juste pour avant de démarrer une séance de questions-réponses, parce qu'on a souhaité qu'il y ait un peu de place et beaucoup de place pour pouvoir avoir des échanges. Moi, je voulais juste rajouter un point sur oser prolonger la vie en bonne santé. Depuis le début des années 2000, tous les 5 ans, nous avons gagné 18 mois d'espérance de vie, nous tous. Ça a marqué une pause depuis l'année dernière, mais depuis le début des années 2000, tous les 5 ans, nous avons tous gagné 18 mois d'espérance de vie. C'est génial. Par contre, nous n'avons gagné que 6 mois d'espérance de vie en bonne santé. Ça, c'est beaucoup moins drôle. Comme vous avez pu le comprendre tout à l'heure, on ne s'est jamais senti aussi jeune. La vieillesse, c'est dans le regard de l'autre. On sait tous qu'on va vivre très vieux. La première question qui nous vient, c'est oui, mais dans quel état ? Et cet état ne nous intéresse pas du tout. Il ne nous intéresse pas de vivre très vieux, allongé dans son lit et à se reposer, comme l'a très bien justement souligné Guillaume, et pas à pouvoir réaliser la plupart des tâches quotidiennes autour de soi. Eh bien, concrètement, c'est là-dessus que nous travaillons. Et même si BlueLinea est vu comme un opérateur d'objets connectés, plus nous avançons dans notre développement, plus nous avons de clients. On va bientôt passer la barre des 20 000 particuliers équipés de nos solutions et abonnés à nos services. Plus de 700 maisons de retraite, 700 EHPAD sont équipés. On s'est aperçu et on s'aperçoit de plus en plus chaque jour que l'objet connecté devient quasiment un prétexte. On parlait tout à l'heure, vous avez vu la petite publicité sur le bouton d'appel famille qui passe en ce moment sur France Télévisions. Cet objet connecté devient un prétexte à une seule chose, le maintien du lien social. Plus une personne âgée se sent utile auprès de sa famille, dans son écosystème, dans son village, dans sa vie, plus elle a l'impression de pouvoir partager ce quotidien, plus elle va se sentir utile et plus elle va avoir envie de faire un bon bout de chemin en bon état. Voilà. Et on travaille souvent là-dessus. Et voilà, je tenais juste à ajouter ce petit point qui est loin de nos présentations commerciales, mais qui donne du sens aussi à ce qu'on a osé exprimer ensemble. Voilà, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas, on est là, à votre disposition. On parle d'engagement contractuel. Comme vous avez pu le constater, on a surtout parlé de famille, et au-delà de l'engagement, surtout de la promesse aux familles. Voilà. C'était assez clair, on vous a tous perdus. Vous êtes encore là ? Ouais ? Avez-vous un sujet particulier ? Non ? Rapide. La première question est toujours difficile. Merci, monsieur.
Bonjour. Je crois que votre dernière réflexion est intéressante parce que vous avez tous parlé de solutions pour l'assistance, la protection, la sécurité, mais pas beaucoup pour le maintien social, en fait. Je ne vois pas tellement de produits qui maintient le lien entre le réseau familial, le réseau social au sens large, et le senior qui, même si certains maintenant vont commencer à être prêts à utiliser des solutions pour ça, beaucoup ne le sont pas encore aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les seniors, quand ils perdent un petit peu leur capacité de communication, à garder un lien social ?
Bah, je vais me permettre de répondre. Ou Jean-Philippe, vas-y.
J'ai deux exemples. Il y a le lien social avec la famille et puis il y a le lien social dans son environnement. Parce que vous avez raison, c'est l'enjeu principal. Hein. Plus on maintient son lien social et plus on vieillira en bonne santé. Nous, on développe des produits avec des seniors. Et on s'est aperçu qu'on était beaucoup plus efficaces. On a voulu lancer une nouvelle génération de smartphones adaptés. Il en existe beaucoup sur le marché. Alors un smartphone, c'est un smartphone, hein, ça vient de Corée, quasiment tous. On a choisi cette société parce que l'interface était évolutive et qu'on a voulu le faire évoluer en fonction des attentes réelles des seniors et pas des attentes supposées. Alors le smartphone va permettre à la personne évidemment de communiquer avec sa famille, va être servir de bouton, téléassistance en mobilité, de pas mal de choses. Mais le mode aussi de co-développement du produit nous permet d'avoir régulièrement 8-10 clients en atelier qui travaillent avec nous et des gens, on a notamment deux dames de 86 ans qui nous remontent tout ce qui finalement ne va pas. Et on les voit régulièrement et c'est ce en quoi aussi on doit participer, nous implantés dans une rue, dans son quartier, dans la ville, à entretenir ce lien social et l'utilité aussi des gens, je dirais, au service finalement d'une société de demain. Et en plus, ils sont très pertinents. J'adore dire que les seniors n'ont... On dit souvent que les gens âgés n'ont plus de filtre. C'est génial pour nous, hein. Ça nous permet vraiment d'avoir de la matière, je dirais, brute de décoffrage à analyser. Et puis évidemment, c'est un outil de communication qui peut offrir tout un tas, mais comme les produits de Blue Linea, je dirais aujourd'hui, d'interconnexion avec la famille, même éloignée.
Guillaume, souvent tes auxiliaires de vie, tes intervenants sont souvent les rares visites qu'elles peuvent recevoir dans la semaine, ces personnes.
Alors, oui, pas uniquement. Et puis, votre question est une vraie leçon d'humilité parce que ça montre que je n'ai pas été très clair dans ce que j'ai dans mon explication. Quand je vous parlais du faire ensemble, un des points majeurs de ce faire ensemble, c'est que ça s'appuie aussi sur une méthode. Alors ceci, je ne l'ai pas expliqué. Ça s'appuie sur une méthode. Et dans cette méthode, il y a un des axes qui est cultiver les liens intergénérationnels et les liens sociaux. Et justement... on stimule les personnes âgées dont on s'occupe dans le cadre de ces prestations pour continuer à avoir ces liens sociaux et notamment vis-à-vis de leur famille, de leurs petits-enfants, de leurs arrière-petits-enfants. Au passage, c'est exactement le pendant de ce que l'on a dans nos méthodes avec les enfants. Et dans nos méthodes avec les enfants, dans l'accompagnement des enfants, on a aussi ce cultiver des liens intergénérationnels qui consiste à aller écrire à leurs grands-parents. Parce que pourquoi on écrit aux grands-parents, aux arrière-grands-parents? Parce que c'est les seuls qui répondent. Donc ça crée un lien bijectif. On envoie, ils répondent avec les grands-parents et ça permet de densifier ces liens intergénérationnels. Quand je vous disais le faire ensemble, ça permet aussi de faire de la transmission. D'ailleurs, on a créé un outil qui s'appelle l'histoire de mes envies, où la personne âgée va raconter sa vie à travers un certain nombre d'anecdotes, à travers un certain nombre de questions, et ça va servir de passeur de témoin entre les générations. Mais c'est aussi cultiver ses relations sociales en l'accompagnant dans toutes les activités sociales qui peuvent exister. Donc il y a énormément de choses qui est faites dans cet accompagnement, dans ce faire ensemble, qui est véritablement une méthode complète d'accompagnement de la personne âgée pour qu'elle ait à la fois la réponse aux actes essentiels de la vie quotidienne, c'est-à-dire ce qui permet vraiment les fonctions basiques, mais aussi tout ce qui fait le sel de la vie. Et le sel de la vie, c'est pouvoir bien manger, pouvoir échanger. L'échange est extrêmement important. Pouvoir continuer à avoir du lien social, des relations, pouvoir continuer à cultiver des liens générationnels avec, en particulier, sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. C'est tout ça qui est compris dans la méthode.